Donc aujourd'hui, ça sera sur la prière chez saint François de Sales. Donc on a commencé par une biographie de saint François de Sales. Après, c'était plutôt sur le but de la vie spirituelle, hein, c'est l'union à Dieu, l'amour de Dieu. Et la dernière fois, c'était plus sur les moyens. Alors, donc l'accueil de la volonté de Dieu, l'équilibre dont fait preuve saint François de Sales et certaines vertus caractéristiques que saint François de Sales nous appelle à cultiver. Alors cette fois-ci, donc, c'est la prière. Alors, en guise d'introduction, pourquoi saint François de Sales donne-t-il une si grande importance à la prière ? Alors d'abord, parce qu'il faut commencer par l'intérieur. Alors, voilà ce qu'il dit dans l'introduction à la vie dévote. Pour moi, je n'ai jamais approuvé la méthode de ceux qui, pour réformer l'homme, commencent par l'extérieur, le maintien, les vêtements, la coupe de cheveux. Il me semble au contraire qu'il faut commencer par l'intérieur, qui a Jésus dans son cœur ne tardera pas à l'avoir en toutes ses actions extérieures. Qui de l'homme gagne le cœur, gagne l'homme tout entier. Donc la prière, c'est vraiment le lieu par excellence où on gagne notre cœur et se laisse gagner à Jésus. Et parmi les formes de prière, alors il insiste particulièrement sur l'oraison. Alors voilà l'éloge qu'il fait de l'oraison. L'oraison mettant notre entendement en la clarté et lumière divine et exposant notre volonté à la chaleur de l'amour céleste, il n'y a rien qui purifie tant notre entendement de ses ignorances, notre volonté de ses affections dépravées. C'est l'eau de bénédiction qui, par son arrosement, fait reverdir et fleurir les plantes de nos bons désirs, lave nos âmes de leurs imperfections et désaltère nos cœurs de leurs passions. Donc voilà, l'oraison, s'il donne une place à la prière et particulièrement à l'oraison, c'est que c'est un lieu, justement, un lieu de transformation intérieure, après, qui gagne l'extérieur. Parce que tout commence par une rencontre avec Jésus. Alors, encore un autre texte. Si je cite trop de textes, vous me direz à la fin, et j'en citerai moins, hein, mais voilà. Surtout, je vous conseille la prière mentale et cordiale. Et surtout celle qui se fait autour de la vie et passion de notre Seigneur. En le regardant souvent par la méditation, toute votre âme se remplira de lui. Vous apprendrez ses contenances, vous formerez vos actions au modèle des siennes. Croyez-moi, nous ne saurions aller à Dieu le Père que par cette porte. Voilà, donc je ne lis pas tout. Alors, encore à Philothée dans l'introduction à la vie dévote. Cher Philothée, j'ai voulu avant toute chose graver et inscrire sur votre cœur ce nom saint et sacré, vive Jésus. Assuré que je suis, qu'après cela votre vie, laquelle vient de notre cœur comme un amandier de son noyau, produira toutes ses actions qui sont ses fruits, écrites et gravées du même mot de salut, et que, comme ce doux nom de Jésus vivra dedans votre cœur, il vivra aussi dans tout votre comportement. Voilà. Alors donc, la prière est vraiment importante pour François de Sales parce que c'est de là que commencent beaucoup de choses. Et que si c'est gagné au niveau de notre cœur, après c'est gagné pour beaucoup de choses dans notre vie. D'ailleurs, vous faites souvent l'expérience. Alors, je pense que la prochaine halte spirituelle, ce sera plutôt sur le combat spirituel et l'ascèse. Alors, quelquefois, on a peut-être des idées un peu particulières. Mais de fait, c'est sans doute votre expérience, quand on a dit un oui à l'intérieur, ben après, la journée d'après, c'est facile. Mais souvent, il y a un certain oui à donner qui est quelquefois un peu compliqué à donner. Voilà, et je pense que la cesse, ça doit tourner autour de ça, hein, je pense. En tout cas, la prière est centrale parce que justement, c'est le lieu où on goûte l'amour de Dieu, où on ressent la douceur de sa bonté, comme dit François de Sales. Et du coup, on a envie d'accomplir sa volonté, qui est vraiment le but de notre vie chrétienne, d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a plus de textes, mais je ne vais pas tout vous lire. Alors donc, l'oraison, parce que, voilà, une fois que notre cœur est transformé après nos gestes, ça découle comme de source. Alors maintenant, je vais vous parler de l'oraison elle-même. Alors, l'introduction de l'introduction à l'oraison. C'est l'oraison elle-même. Déjà, saint François de Sales Vous savez, dans ces siècles de 16e, 17e, il y en a beaucoup qui parlaient de tous les degrés d'oraison, etc. C'est pas trop le truc de saint François de Sales. Alors, les gens pensaient que s'ils avaient des hauts degrés d'oraison, ils étaient saints. Il faut y regarder d'un peu plus près. Le but, c'est d'être saint, c'est pas de faire bien oraison, quand même. Il faut mettre les choses dans l'ordre, quand même. C'est de beaucoup aimer Dieu. C'est pas de faire bien oraison. Alors, bien sûr, je vous encourage à faire bien oraison, etc. Mais quelquefois, on oublie un peu les finalités, on bouleverse un peu l'ordre des choses. L'essentiel, c'est d'aimer Dieu, c'est ça. Hein. Après, l'oraison, on fait comme on peut. Hein. Alors, aussi, donc, je vous parlerai d'une méthode, entre guillemets, mais il y aurait beaucoup de guillemets à mettre, une méthode pour faire oraison selon saint François de Sales. Mais lui, il n'est pas très méthode, en fait. Il donne quand même des indications hein, dans l'introduction. Il donne des indications, mais il n'est pas du tout enfermé dans les indications. Alors, je vais vous donner quelques textes qui sont assez éloquents à ce sujet-là. Mais François de Sales ne veut pas nous mettre dans un carcan. Hein, ce n'est pas du tout son style de nous mettre dans un carcan. Il veut qu'on respire un petit peu. Donc, je vous présenterai la méthode de saint François de Sales en 7 points. Alors, dans un sermon, plusieurs se trompent grandement, croyant qu'il faille tant de choses, tant de méthodes pour la bien faire. Je ne dis pas qu'il ne faille se servir des méthodes qui sont marquées. Donc, s'il y a des méthodes, vous pouvez vous en servir, c'est très bien. Mais l'on ne doit pas s'attacher et les affecter tellement que nous mettions toute notre confiance dans ces méthodes. Il n'y a qu'une seule chose nécessaire pour bien faire l'oraison, qui est d'avoir notre Seigneur entre nos bras. Voilà. Alors c'est ça, l'essentiel de l'oraison, c'est mettre notre Seigneur entre nos bras. C'était un sermon qui faisait le 2 février. Donc c'est le vieillard Siméon qui prend Jésus dans ses bras et qui dit « Oh ben maintenant tu peux me laisser m'en aller ». Voilà. Mais voilà, l'essentiel de l'oraison, c'est d'avoir Jésus dans ses bras. Et je trouve que c'est très intéressant. Autre citation aussi, lettre à Madame de Gramieux. Ne vous amusez point au temps de l'oraison à vouloir savoir ce que vous faites et comment vous priez, car la meilleure prière ou oraison, c'est celle qui nous tient si bien employés en Dieu que nous ne pensons point en nous-mêmes ni en ce que nous y faisons. En somme, il faut aller là, simplement, à la bonne foi et sans art, pour être auprès de Dieu, pour l'aimer, pour s'unir à lui. Le véritable amour n'a guère de méthode. Donc ça nous dit bien l'esprit de saint François de Sales. Bon, s'il y a des méthodes, si ça peut vous aider, tant mieux. Mais il ne faut pas être esclave des méthodes. C'est le cœur de la prière, ce n'est pas les méthodes, c'est l'amour. Donc ça c'est clair. Saint François de Sales, donc je vais vous prendre 7 points. Mais il dit, ne soyez pas esclave de ces points. Même s'il y a des choses, vous verrez, c'est assez intéressant. Est-ce que vous avez le livre de l'introduction à la vie dévote? C'est une édition qui ne coûte pas trop cher, mais je vous indiquerai des choses que vous pourrez voir après dedans. Mais c'est surtout dans la deuxième partie, je ne la prendrai pas entière, mais que je vais suivre plus ou moins. Saint François de Sales est très concret. Alors là, je suis encore avant le premier point. Il dit, il vaut mieux faire l'oraison avant le déjeuner. Après le déjeuner, vous aurez peut-être tendance à vous endormir. C'est tout simple. Il préfère le matin plutôt que le soir. C'est pas absolu. Encore une fois, il met pas des règles trop dures. Mais il dit que ça suppose aussi quelque part d'avoir un certain équilibre de vie si on veut faire oraison. Sinon, si on dort pendant tout... J'y viendrai, ce sera mon dernier point, quand on dort pendant l'oraison. Mais d'ici là, j'espère que je ne vous aurai pas endormi. Mais voilà, donc il faut prendre notre humanité avec ses besoins très concrets. Si on est trop mal installé, on pensera qu'à ses genoux qui nous font mal. Mais le but, ce n'est pas de penser à ses genoux, c'est de penser à Dieu dans la prière. Donc voilà, il faut remettre des choses. Et saint François de Sales est très bon pour ça, pour nous dire, mais vous ne trompez pas de... Le but, c'est d'aimer Dieu. La prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu, c'est ça le but. Alors après, il y a une certaine... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas une certaine ascèse, une certaine... Bon, on va y venir, mais en même temps, le cœur de la prière, c'est au-delà de toutes les méthodes. Alors, 7 points. Le premier, Les deux premiers, ça sera la préparation de l'oraison. Le premier élément, c'est se mettre en présence de Dieu. Ça peut nous paraître un peu évident, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. La première chose dans la prière, c'est de se mettre en présence de Dieu. On ne se met pas en présence de soi-même dans la prière. On ne vient pas pour se prier. « Oh mon Dieu, je te regarde, je ne suis pas comme les autres », tout ça. Là, il était en train de se regarder. La prière, ce n'est pas pour se regarder, c'est pour regarder Dieu. Donc, mais du coup, il faut avoir conscience dans la foi. Il faut avoir conscience de notre interlocuteur, sinon on est mal parti dans la prière. Donc ça paraît vraiment élémentaire ce que nous dit saint François de Sales. Et vous verrez, dans la première partie, il nous fait 10 méditations sur la création, sur la fin pour laquelle nous avons été créés. Et à chaque fois, il commence toujours par se mettre en présence de Dieu. Voilà. Alors il nous donne 4 pistes pour nous mettre en présence de Dieu. Encore une fois, c'est dans la foi, hein, vous comprenez bien. Vous ne sentez pas forcément que Dieu est là. Certains jours peut-être, tant mieux. Mais la plupart du temps, vous le savez par votre foi qu'il est là, mais vous ne le sentez pas. Donc, c'est important de se resituer toujours au niveau de la foi. Ce n'est pas François de Sales, mais Père Caffarel disait, il y a plusieurs types de personnes qui se découragent pour faire l'oraison. Le premier type de personnes, c'est ils veulent sentir la présence de Dieu, et puis comme ils ne sentent rien, bon, ils abandonnent l'oraison. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vont avoir des belles idées sur Dieu et tout ça, et puis en fait, ils n'ont pas de belles idées sur Dieu, donc ils disent, bon, j'abandonne l'oraison. Il y en a qui ont des distractions, ils disent, bon, si je suis là pour être distrait, ce n'est pas la peine que je continue. Et ils disent, mais non, c'est pas le cœur de l'oraison, c'est d'unir notre volonté à celle de Dieu. C'est ça le cœur de l'oraison. Je veux ce que tu veux. Voilà. Mais ça, c'était le Père Caffarel. Mais je reviens, donc, se mettre en présence de Dieu. Donc, il nous donne 4 pistes. Prendre conscience dans la foi que Dieu est présent partout. Le premier moyen pour se mettre en présence de Dieu consiste en une vive et attentive appréhension de toute la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en tout et partout et qu'il n'y a ni lieu ni chose en ce monde où il ne soit d'une très aimable présence. Donc, dans la création, dans le... Voilà. Dieu est... Voilà. Est présent partout. Deuxième piste, prendre conscience dans la foi que Dieu est présent dans mon cœur. Pas seulement partout, mais en moi. Dieu, en particulier, quand nous sommes baptisés, nous sommes, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Donc, une troisième piste qu'il nous donne, c'est se savoir regarder par Jésus. Alors, Jésus qui ne nous regarde pas pour nous culpabiliser, ou voilà, avec son fouet, son martinet, ou je ne sais pas quoi. Mais donc, Jésus pose son regard sur nous quand nous nous mettons en prière. Une quatrième piste pour se mettre en présence de Dieu, c'est s'imaginer, ce qui est la réalité aussi, que Jésus est proche de nous. La quatrième façon consiste à se servir de la simple imagination, nous représentons le Sauveur en son humanité sacrée, comme s'il était près de nous. Vous userez donc de l'un de ces 4 moyens pour mettre votre âme en la présence de Dieu avant l'oraison. Et il ne faut pas les vouloir employer tous ensemble, mais seulement un à la fois, et cela brièvement et simplement. Donc ça c'est le premier point, donc il y en aura 7 pour l'oraison, ça c'est un préliminaire en quelque sorte, se mettre en présence de Dieu. Le deuxième point, en préliminaire encore, c'est d'invoquer Dieu. Là aussi, ça pourrait peut-être nous sembler un peu élémentaire, mais ça vaut la peine de le préciser, parce qu'on ne joue pas à égalité avec Dieu. Et Dieu nous dépasse infiniment, donc on entre dans la prière à genoux, pour ainsi dire, si ce n'est pas physiquement, en tout cas spirituellement parlant, parce que... Oui, de prendre conscience qu'il y a un décalage entre Dieu et nous. Dieu est très est grand. Alors, je vous cite saint François de Sales. L'invocation se fait en cette manière. Votre âme, se sentant la présence de Dieu, se prosterne en une extrême révérence, se connaissant très indigne de demeurer devant une si souveraine majesté. Oui. Un autre endroit, c'est une lettre à la présidente Brûlard. Vous ne faites rien, ce me dites-vous en l'oraison, mais qu'est-ce que vous voudriez y faire, sinon ce que vous y faites, qu'est de présenter et représenter à Dieu votre néant et votre misère. C'est la plus belle harangue que nous fassent les mendiants que d'exposer à notre vue leurs ulcères et nécessités. Donc, vous pouvez présenter vos ulcères au bon Dieu. Vous commencez l'oraison en présentant vos ulcères au bon Dieu. Voilà, et en même temps, c'est invoquer Dieu, les anges, les saints, la Sainte Vierge, enfin, tous les amis du ciel que vous voulez, les convoquer. Ça peut prendre toute la prière, ça, mais ça, on est encore dans les préliminaires, mais si vous voulez passer votre... peu importe. Après, troisième point, après ces deux préliminaires, c'est un troisième préliminaire, mais il nous dit, bon, c'est pas obligatoire. Alors, proposer à son imagination le corps du mystère que l'on veut méditer, comme s'il se passait réellement et de fait en notre présence. Par exemple, si vous voulez méditer notre Seigneur en croix, vous vous imaginerez d'être au mont du Calvaire et que vous voyez tout ce qui se fit et se dit au jour de la Passion. Alors ça, c'est... Il dit que ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est important, en tout cas, de ne pas laisser notre imagination de côté. De toute façon, elle se rappellera assez vite à vous, sans doute. Alors, ça rejoint un peu ce que disait Saint Ignace de Loyola, je ne sais pas si vous connaissez, quand il parle de la composition du lieu. Donc, et c'est aussi utiliser l'imagination. L'idée, c'est qu'il vaut mieux l'avoir pour nous que contre nous, l'imagination. Donc, c'est une manière de canaliser un peu notre imagination et qu'elle serve notre prière plutôt que la desservir, en quelque sorte. Quatrième point, alors là, on rentre davantage, c'est le cœur, ça va être un peu plus long. Ça, c'est vrai. Le quatrième point, c'est vraiment le point central de l'oraison. Déjà, le but, c'est ce qu'il appelle la méditation elle-même, je crois, Le but de la méditation, c'est réchauffer le cœur plutôt que de connaître. Ça se place plus au niveau du cœur qu'au niveau de la tête. Et c'est important. Alors, notre tête aussi, on peut l'utiliser, bien sûr. Avec l'exercice de notre imagination, nous méditons. Avec notre intelligence... Après l'exercice de notre imagination, nous méditons avec notre intelligence sur le mystère pour émouvoir notre affection en Dieu, développer nos bons sentiments à partir de ce que nous considérons du mystère avec notre intelligence. La finalité, ce n'est pas de connaître beaucoup de choses de Dieu, c'est d'aimer beaucoup Dieu. Mais bien sûr, par exemple, si vous prenez un passage de la parole de Dieu, c'est important de le travailler avec votre intelligence aussi sur ce texte de la parole de Dieu. Je me réfère encore au Père Caffarel, puisque beaucoup travaillé sur la question de l'oraison. Avant d'entrer dans l'oratoire où on faisait oraison, il y avait une salle où il y avait une Bible et un vocabulaire de théologie biblique sur chaque table. Et pour nous dire, mais pour ne pas tourner en rond dans la prière après, de façon simplement émotive, lisez la parole de Dieu, approfondissez. Et puis après, vous passez à la case suivante qui est de rentrer dans l'oratoire. Vous êtes en oraison, vous ne devez pas bouger du tout. Je sais pas, il y en a qui ont connu le Père Caffarel ici. Ah oui. Il était un peu strict quand même. On ne pouvait pas beaucoup bouger quand on était une fois dans la chapelle. C'était un peu carré quand même. Mais en même temps, il a formé des milliers, je crois, on pourrait dire, des milliers de personnes pour à l'oraison. Donc il y a une certaine discipline dont il ne faut pas être esclave. C'est normal. La méditation est différente de l'étude et des autres pensées et considérations, lesquelles ne se font pas pour acquérir la vertu ou l'amour de Dieu. Voilà. En revanche, la méditation cordiale, c'est pour acquérir l'amour de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est aussi, il est assez concret, François de Sales. Il y a des jours, on n'est pas très inspiré. Peut-être pas vous, mais... mais il dit, mais vous prenez pas la tête, vous prenez un livre, si ça vous va. Et alors, je vous lis ce que nous dit François de Sales. Si votre esprit trouve assez de goût, de lumière et de fruits sur l'une des considérations, vous vous y arrêtez sans passer plus outre, faisant comme les abeilles qui ne quittent point la fleur tandis qu'elles y trouvent du miel à recueillir. Mais si vous ne réussissez pas selon votre souhait en l'une des considérations, après avoir un peu marchandé et essayé, vous passerez une autre. Mais allez tout bellement et simplement cette besogne, sans vous y empresser. C'est un conseil tout simple, mais on ne maîtrise pas les choses dans la prière. Vous ne savez pas, alors vous lisez quelque chose, ça vous fait du bien, surtout il ne faut pas aller plus loin. Vous y restez. L'image des abeilles, tant qu'il y a quelque chose dans la fleur, vous y restez. Après, vous commencez à distraire tout ça, ben vous passez une autre fleur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand les affections se présenteront à vous, il faut les recevoir et leur faire place, soit qu'elles arrivent avant ou après toutes ces considérations. Si faisant l'oraison vocale, vous sentez votre cœur tiré et convié à l'oraison intérieure ou mentale, ne refusez point d'y aller, mais laissez tout doucement couler votre esprit de ce côté-là et ne vous souciez point de n'avoir pas achevé les oraisons vocales que vous vous étiez proposées, car la mentale que vous aurez faite en leur place est plus agréable à Dieu et plus utile à votre âme. Voilà. Un autre endroit, il dit qu'il y a trois manières de faire oraison, mais ça reprend un peu ce qu'on dit avant. Il dit qu'il y a une première manière, c'est avec l'imagination, alors on se représente le mystère. Une deuxième manière, c'est la considération, c'est nous représentant les vertus que notre Seigneur a pratiquées, son humilité, sa patience, sa douceur, sa charité à l'endroit de ses ennemis. Et alors, du coup, de garder ça dans le cœur, etc. Ça, c'est une deuxième manière. Et la troisième, c'est de se tenir tout simplement en présence de Dieu. Mais cette manière d'oraison, dit Saint François de Sales, est plus sujette à distraction. Et quelquefois, voilà, on commence comme ça, et puis après, on se retrouve à milieu du bon Dieu. Ces trois sortes d'oraisons sont très bonnes. Que donc celles qui sont attirées à l'imagination la suivent, et de même celles qui le sont à la considération, c'est plus l'intelligence, et à la simplicité de la présence de Dieu. Mais néanmoins, pour cette troisième sorte, il faut bien se garder de s'y porter soi-même, si Dieu ne nous y attire. C'est vraiment une grâce, cette troisième forme d'oraison, où voilà, on est bien, là, tout simplement, avec le bon Dieu. Donc ça, c'est vraiment le point central de la méthode, entre guillemets, de Saint François de Sales, c'est les considérations. Alors, vous pourrez lire dans la première partie de l'introduction à la vie dévote, les chapitres 9 à 18. Il y a des méditations, donc j'en reprendrai une à la suite pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, ce qu'il nous propose. Après, cinquième point, donc quatrième c'était la centrale, cinquième point c'est passer des bons désirs aux résolutions concrètes. Alors, on voit bien le côté pragmatique de Saint François de Sales. Oui, c'est bien d'avoir des bons sentiments dans ta prière, mais après, est-ce que tu seras plus aimable avec ton mari ou tes enfants ou voilà. Donc, en quelque sorte, les sentiments de l'oraison doivent se traduire dans les vertus après. Et de fait, la deuxième partie parle plus de l'oraison, la troisième partie, c'est les vertus. Mais vous sentez que ce n'est pas une vertu à la force du poignet, mais en contemplant Jésus, ça vous a donné envie de le suivre. Saint François de Sales, ce n'est pas du tout quelqu'un de dur et qui fait les choses à la force du poignet. C'est d'abord désirer le bien, et après on essaye de le faire, mais il faut d'abord le désirer avant de vouloir le faire. Quelquefois, on peut être un peu trop volontariste. Il faut de la volonté, bien sûr. Mais la volonté, c'est d'abord une capacité d'aimer. Et il faut voir le bien pour aller vers ce bien. Il ne faut pourtant pas filoter, s'arrêter tant à ces affections générales que vous ne les convertissiez en des résolutions spéciales et particulières pour votre correction et amendement. Alors, je prends l'exemple qu'il donne. Il donne plein d'exemples. Par exemple, la première parole que notre Seigneur dit sur la croix répandra sans doute une bonne affection d'imitation en votre âme, à savoir le désir de pardonner à vos ennemis et de les aimer. Or, je dis maintenant que cela est peu de choses si vous n'y ajoutez une résolution spéciale en cette sorte. Oh, je ne me piquerai plus de telles paroles fâcheuses qu'un tel ou une telle, mon voisin ou ma voisine, mon domestique ou ma domestique disent de moi, ni de tel ou tel mépris qui m'est fait par celui-ci ou celle-là. Au contraire, je dirai et ferai telle et telle chose pour le gagner et adoucir, et ainsi des autres. Par ce moyen, piloté, vous corrigerez vos fautes en peu de temps, là où par les seules affections, vous le feriez tard et malaisément. Donc, vous contemplez Jésus qui pardonne, après, à l'action. Voilà, donc, dans cette partie, on passe des bons désirs aux résolutions concrètes. Voir comment je peux traduire. Alors, des résolutions proportionnées à ce qu'on pense pouvoir faire. Bien sûr, il y a des choses, peut-être aujourd'hui, on n'est pas là, on ne pourra pas le faire, mais ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on pourra peut-être demain ou après-demain. Mais on prend quand même, on fait un petit pas quand même si on ne gravit pas la montagne d'un seul coup. Sixième point, c'est la première partie de la conclusion de l'oraison. Action de grâce, offrande, supplication. Donc, remercier Dieu de ce qu'il nous a donné pendant son prière, qu'on ait ressenti ou pas d'ailleurs. Parce que Dieu a pu nous travailler à notre insu, pour ainsi dire, pendant ce temps d'oraison qu'on lui a donné gratuitement. Hein, l'oraison, c'est vraiment le temps gratuit par excellence. Hein, c'est Sœur Jeanne d'Arc, je crois, qu'il faisait correspondre à l'Holocauste comme sacrifice dans l'Ancien Testament. Il y avait des différents sacrifices. Il y en a, on mangeait quand même une part de la victime, et puis on brûlait certaines choses. Mais l'Holocauste, on brûle tout. Il n'y a rien qui nous revient. Et alors l'oraison, il y a un peu de ça. C'est vraiment une prière très gratuite. Donc l'action de grâce, l'offrande de soi, et la supplication pour qu'il nous soutienne de sa grâce, parce que voilà, ça c'était le sixième point, la première partie de la conclusion, et septième point, la deuxième partie de la conclusion, le bouquet spirituel. Prendre un ou deux points de notre méditation sur lesquels nous allons revenir tout au long de la journée. Un bouquet spirituel, c'est une phrase ou une pensée qui rappelle pendant la journée, on le garde en mémoire. Voilà. Alors, je voulais François de Sales qui nous parle de cueillir le bouquet spirituel. Ceux qui se sont promenés en un beau jardin n'en sortent pas volontiers sans prendre en leurs mains 4 ou 5 fleurs pour les odorer et tenir le long de la journée. Ainsi, votre esprit ayant discouru sur quelques mystères par la méditation, nous devons choisir 1 ou 2 ou 3 points que nous aurons trouvés plus à notre goût et plus propres à notre avancement pour nous en ressouvenir le reste de la journée et les odorer spirituellement. Or, cela se fait sur le lieu même auquel nous avons fait la méditation en nous y entretenant ou promenant solitairement quelque temps après. Voilà, donc cueillir le bouquet spirituel. Ça va? Et alors là, je reprends avant de passer. Il y aura 3 grandes parties en fait. Je ne vous l'avais pas annoncé, mais la première c'est sur l'oraison, et après ça sera autre chose. Un exemple de méditation, donc là c'est la troisième, je crois, qui est consacrée aux bienfaits de Dieu. Alors il met d'abord la préparation, mettez-vous en la présence de Dieu, priez-le qu'il vous inspire. Et après les considérations. Je ne vais pas les lire parce que ça sera un peu long, mais si vous l'avez, vous le trouverez facilement dedans. Et après, on voit les affections et résolutions. Voilà, on passe dans le domaine des résolutions. Et après, la conclusion avec le remerciement, l'offrande et la prière. Alors, il le fait 10 fois de suite pour 10 sujets différents. Du coup, ça vous donne de voir un peu comment il procède. Et faites le petit bouquet spirituel à la fin, toujours. Ça, donc, c'était les points sur l'oraison. Maintenant, je vais parler des 5 rejetons de la grande oraison. Je cite François de Sales qui parle des rejetons de la grande oraison. Ce qui est important, c'est que François de Sales, encore une fois, il accorde une importance très particulière à l'oraison. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne croit pas en la messe, qu'il est bien sûr, mais il y a une insistance particulière sur l'oraison. Et il a une belle image pour parler aussi de voilà qu'il y a plus d'une forme de prière dans notre vie. Donc il parle de l'horloge. Alors, il dit que l'horloge, ben, il faut la remonter matin et soir. Et donc là, on va parler de la prière du matin et la prière du soir. Il y a l'oraison, mais en plus, il y a la prière du matin et celle du soir. Il dit que quelquefois, les pièces, elles sont un peu défectueuses. Bon, il faut les réparer, il faut mettre un peu d'huile sur les roues, etc. Donc, réparer par la confession, un peu de l'huile délicate par l'Eucharistie aussi. Cet exercice refera vos forces abattues par le temps, etc. Voilà. Donc, là, je vais parler de ce qu'il appelle les rejetons de l'oraison. Je vous le cite. Outre cette oraison mentale et les prières vocales que vous devez faire une fois le jour, il y a 5 autres sortes d'oraisons plus courtes qui sont comme les accessoires et les rejetons de l'autre grande oraison. De ce nombre se trouve d'abord la prière du matin. Alors, dans la prière, on commence par remercier Dieu de vous réveiller. Vous auriez pu vous réveiller au ciel, peut-être, mais une chose, toujours la perspective de l'éternité. Ben, Seigneur, tu me donnes ce jour pour me préparer aussi à mon éternité. Troisième chose, prévoyez quelles affaires vous aurez à traiter ce jour-là. Quelles occasions vous pourrez avoir de servir Dieu, quelles tentations vous pourront survenir de l'offenser, soit par colère, soit par vanité, soit de quelque autre manière. Voilà. Donc là, la prière du matin, vraiment, on prépare notre journée. Hein. Voilà. Alors, là, c'est assez bon aussi. Par exemple, si je prévois que j'aurai à traiter de quelque affaire avec une personne passionnée et prompte à la colère, ce qui vous arrive jamais, bien sûr, non seulement je prendrai la résolution de ne point la fâcher, mais encore je préparerai d'avance des paroles de douceur qui puissent la prévenir et la gagner. Ou bien je ferai choix de quelques personnes graves dont la présence puisse la contenir. Si je prévois que j'aurai à visiter un malade, je songerai à l'heure qu'il faudra prendre pour cela, au secours et aux consolations que je devrai lui donner, ainsi du reste. Donc ça, dans la prière du matin, on anticipe notre journée, et puis voilà, comment je pourrais... Vous savez qu'il y a des rendez-vous quelquefois qu'on appréhende un petit peu. Voilà, Seigneur, comment je vais aborder ce moment, ou d'autres qu'on aime, mais voilà. Quatrième point dans cette prière du matin, ça vous le retrouvez là-dedans. Hein. Cela fait, humiliez-vous devant Dieu, et alors vous lui demandez son aide. Oh, j'ai besoin de toi parce que ça ne sera peut-être pas si facile que ça. Voilà. Mais souvenez-vous, Philothée, que tout ceci doit se faire brièvement et vivement, et s'il se peut, avant qu'on sorte de la chambre, afin que cet exercice influe sur le reste de la journée et y attire les bénédictions de Dieu. Je vous prie de ne jamais y manquer. Voilà, donc ça c'était le premier rejeton, la prière du matin. Le deuxième, la prière du soir et l'examen de conscience. Je ne vais pas détailler ce point. Vous pourrez là encore revoir dedans. Bon, c'est déjà remercier Dieu pour sa protection de la journée. Puis après, voir un peu comment on s'est comporté pendant la journée. Alors, troisième rejeton, la retraite spirituelle. Alors ça, c'est un rejeton tout à fait essentiel pour François de Sales. Ainsi que le suivant qui parlera des oraisons jaculatoires. Et là, c'est la retraite spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la retraite spirituelle? C'est pas le fait d'aller passer une semaine dans un monastère, ce que je vous invite à faire, bien sûr. Mais c'est pas ça dont parle François de Sales à cet endroit-là, en tout cas. C'est plutôt un moyen de garder la présence de Dieu au milieu des occupations ordinaires. Alors, je vous le cite. « Rappelez le plus souvent que vous pourrez parmi la journée votre esprit en la présence de Dieu par l'une des quatre façons que je vous ai marquées. » Alors, c'est celle qu'on avait dite au début, hein, Dieu qui est présent partout, Dieu qui est présent en mon cœur, Dieu qui me regarde, et j'imagine Jésus près de moi. Mais donc, il s'agit de l'un des grands moyens qui existent pour s'avancer dans la vie spirituelle. Comme les oiseaux ont des nids sur les arbres pour s'y retirer quand ils en ont besoin, et comme les cerfs ont leur buisson et leur fort pour s'y mettre à l'abri des ardeurs de l'été. De même, Philothée, nos cœurs doivent choisir chaque jour quelques places, soit sur le mont Calvaire, soit dans les plaies de notre Seigneur, soit dans quelque autre lieu près de lui pour s'y retirer en toute rencontre, et s'y faire comme un fort et un buisson où il puisse se reposer des affaires extérieures et se mettre à l'abri des tentations. C'est très précieux ce que nous dit Saint François de Sales, ça permet de prendre un peu de recul, un peu de hauteur par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Ça correspond un petit peu, plus ou moins, mais il y en a qui parlent de se mettre en position méta. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fois on reste dans la situation, mais à la fois on prend un peu de hauteur pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Du coup, on n'est pas collé à la situation. Quelquefois, quand on est collé à la situation, on est pris dans un engrenage et on ne sait pas comment... Voilà. Tandis que là, on prend un peu de recul qui nous permet d'avoir un peu de liberté aussi par rapport à la situation. Et j'aime beaucoup, il y a un livre, c'est « Les 150 fruits de l'esprit » et il y a deux pages. Enfin, il y a plus de deux pages dans le livre, mais il y a un certain endroit, il y a... Bien sûr, tu peux toujours râler, la page de gauche, et la page de droite, mais tu n'es jamais obligé. Et entre les deux, c'est la reliure. C'est notre liberté entre les deux. Mais du coup, si on est collé complètement dans la chose, on râle et puis on râle du début à la fin. Si on a cette petite distance, cette retraite spirituelle où on va dans notre nid, quelque part pour se dire, attends, Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es jamais obligé de te râler. Et du coup, ça, c'est très, très précieux. Je pense d'apprendre à se décoller un petit peu, de ne pas être complètement dans le... Alors, ça ne veut pas dire d'être complètement absent, d'être dans le rêve. Hein. Au contraire, vous êtes encore plus présent, mais avec une qualité plus grande. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a quelque chose de très, très précieux. Alors, il prend l'exemple de Catherine de Sienne. Les pères et mères de Sainte Catherine de Sienne, lui ayant ôté toute facilité de prier et de méditer, soit pour le temps, soit pour le lieu, notre Seigneur lui inspira de se faire intérieurement un petit oratoire spirituel où, se retirant à loisir, elle put vaquer à la sainte solitude du cœur, même au milieu des affaires sans nombre qui l'occupaient à l'extérieur. Et depuis, quand le monde l'attaquait, elle n'en recevait aucun trouble, parce que, disait-elle, elle s'enfermait dans son cabinet intérieur et s'y consolait en la compagnie de son divin maître. Aussi, dès lors, elle ne conseillait rien tant à ses compagnes que de se faire ainsi une petite cellule dans le cœur et de s'y enfermer avec Jésus. Alors il dit à un autre endroit, « Retirez-vous donc quelquefois en vous-même, Philothée, et là, séparés du monde, traitez cœur à cœur avec Dieu les intérêts de votre âme. » Et ça, c'est la retraite spirituelle, et je pense que c'est quelque chose de très précieux, qui va de pair avec l'oraison. C'est aussi parce qu'on a fait oraison, les différents points s'appellent les uns les autres. Si on ne fait jamais oraison, on ne pourra pas faire ses retraites spirituelles, il ne faut pas faire d'illusions. C'est aussi parce que dans l'oraison, c'est vraiment là qu'on nourrit notre lien avec Jésus. Alors, quatrième rejeton, les aspirations spirituelles et oraisons jaculatoires. Je vous cite encore François de Sales. « Aspirez donc bien souvent à Dieu, Philothée, par de courts mais vifs élancements de votre cœur. » Admirez sa beauté, invoquez son secours, jetez-vous en esprit aux pieds de sa croix, adorez sa miséricorde, interrogez-le souvent au sujet de votre salut, fixez sur lui vos yeux pour vous pénétrer de sa douceur, tendez-lui la main comme un petit enfant à son père, afin qu'il vous conduise. » Donc c'est vraiment un petit mot qu'on adresse à Jésus au cours de la journée. Qu'on l'aime ou tout ça. Voilà. Alors François de Sales, là encore, il dit, il existe beaucoup de recueils d'aspiration vocale. Alors ils sont très utiles, et il ne va pas dire du mal, mais si vous m'en croyez, vous ne vous astreindrez pas à ces sortes de paroles, où vous prononcerez simplement de cœur ou de bouche celles que l'amour divin vous suggérera sur le champ, car il vous en fournira tant que vous voudrez. Et il prend l'exemple. Lorsqu'un homme est épris d'un amour humain et naturel, il a presque toujours ses pensées occupées de la personne qu'il aime. Son cœur n'a d'affection que pour elle, sa bouche en fait continuellement l'éloge. S'il en est séparé, il ne manque pas de lui écrire les choses les plus tendres. De même aussi, ceux qui aiment Dieu ne peuvent cesser de penser à lui, de respirer pour lui, d'aspirer à lui, de parler de lui. Je trouve ça très, très beau aussi. Voilà, notre prière, c'est pas simplement le temps d'oraison, mais dans la journée. Et à cet endroit-là, François de Sales prend l'exemple d'un certain nombre de saints qui, quand ils voient des choses, ça leur fait penser tout de suite au bon Dieu, d'une manière ou d'une autre. Alors, il cite saint Grégoire de Nazianze. Il est au bord de la plage et puis il voit des vagues et puis il y a des coquillages qui bougent, qui repartent, etc. Et puis à côté de ça, il voit des rochers qui sont vraiment stables. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Les grands courages demeurent fermes et inébranlables par tous les temps et contre tous les orages. Et ça, ça lui a parlé parce qu'à ce moment-là, il y en a un autre qui voulait lui prendre son siège épiscopal, etc., et voulait le virer. Donc, pour rester fondé en Dieu sans se faire des... Voilà, ça. Ou alors saint Anselme. Saint Anselme était à cheval, et puis il y a un petit lièvre qui est poursuivi par des chiens, et il se met sous son cheval. Alors, les chiens clabaudaient tout autour, hein, sans toutefois oser approcher. Et alors, du coup... Les chasseurs riaient et Anselme dit, mais vous riez, mais le pauvre animal ne rit pas, lui. Et du coup, n'est-ce pas ainsi, lorsqu'une âme a été poursuivie et menée par mille détours à toutes sortes de péchés, ses ennemis l'attendent au passage de la mort pour s'en saisir et la dévorer. Mais voilà, et la pauvre âme a trouvé un refuge. Alors, vous voulez encore une autre image ? Je vous cite le curé d'Arcelor, il ne le cite pas, oui, pour cause, François de Sales, mais il avait beaucoup de curé d'Ars pour ça, une foule d'images qui sont très parlantes. La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé, elle entraîne les cœurs sur son passage. On imagine le curé d'Ars quand il est au bord de son torrent, il dit, mais voilà, ça lui parle parce qu'il aime Dieu et ses oraisons jaculatoires, ses aspirations spirituelles, ça lui parle de Dieu. Alors il dit... La communion fait à l'âme comme un coup de soufflet à un feu qui commence à s'éteindre, mais où il y a encore beaucoup de braise. Là aussi, il ne voit pas simplement l'affaire ici, mais il voit les bienfaits de la communion. Ou alors pour la prière aussi. La prière particulière ressemble à de la paille parsemée ça et là dans un champ. Si on y met le feu, la flamme a peu d'ardeur. Mais si on réunit cette paille éparse, la flamme est abondante et s'élève haut vers le ciel. Ainsi en est-il de la prière publique. Alors je vous le cite, après je reviendrai un peu plus loin sur la prière publique. Mais je trouve que c'est une belle image. Voilà, vous pouvez prier chez vous toute seule, mais de prier avec d'autres, c'est aussi l'image, c'est les brins de paille qui sont ensemble. Alors ça, c'était le quatrième rejeton de la grande oraison. Le cinquième, c'est la messe. Alors, saint François de Sales aime beaucoup la messe, bien sûr. Il l'appelle le centre de la religion chrétienne, le cœur de la dévotion, l'âme de la piété. Ou alors, il dit encore, je ne vous ai point encore parlé du soleil des exercices spirituels, qui est le très saint, très sacré, très adorable, sacrifice et sacrement de l'autel, centre de la religion chrétienne. La prière faite en union à ce divin sacrifice a une force merveilleuse, car l'âme se trouvant alors comme appuyée sur son bien-aimé abonde en faveur céleste. Bon, il parle aussi de la manière de communier, etc., bien sûr, sans affection au péché, etc. Bon, si les mondains vous demandent pourquoi vous communiez si souvent, dites-leur que c'est pour apprendre à aimer Dieu, pour vous purifier de vos imperfections, pour vous délivrer de vos misères, pour vous consoler en vos afflictions, pour vous soutenir en vos faiblesses. Alors, il en cite cinq, mais en fait, après, il y en a d'autres choses qu'on pourrait appeler comme quelques autres rejetons de l'oraison, alors la parole de Dieu. écouter la parole de Dieu et les livres spirituels. Il n'hésitait pas à recommander les livres spirituels. Pour parvenir à la contemplation, nous avons pour l'ordinaire besoin d'ouïr la sainte parole, de faire des entretiens et colloques spirituels avec les autres, à la façon des anciens anachorètes, de lire des livres dévots, de prier, méditer, chanter des cantiques, former de bonnes pensées. Voilà. Autre rejeton, on pourrait dire, supplémentaire, les prières communautaires. C'est pas parce que François de Sales insiste beaucoup sur l'oraison qu'il considère que la prière communautaire n'a pas de valeur. Au contraire, je vous lis deux petits extraits de François de Sales qui insiste aussi sur l'importance aussi de la prière communautaire. Il faut encore, les dimanches et les fêtes, assister à l'office des heures et des vêpres tant que votre communauté vous le permettra. Car ces jours-là sont dédiés à Dieu, il faut bien y faire plus d'action en son honneur et gloire qu'on en fait les autres jours. Rappelez-vous une fois pour toutes qu'il y a toujours plus d'avantages et de consolations aux offices publics de l'Église qu'aux pratiques particulières. Dieu ayant voulu, pour ce qui concerne son culte, que la communion des fidèles fût préférée à toutes sortes de particularités. Et la prière communautaire a une force particulière, donc l'oraison ne nous dispense pas, bien sûr, de la prière communautaire. Elle nous y renvoie. L'oraison, elle est là pour renouveler notre cœur. Mais après, donc, il y aura une paille un peu plus grosse pour faire un peu plus grand dans la prière communautaire. Mais... Et puis, l'invocation des saints, alors, des saints anges, de la Sainte Vierge, ça fait partie de tous ces autres rejetons de la grande oraison. Et maintenant, j'arrive à la troisième et dernière partie. Quelle attitude avoir vis-à-vis des inspirations, consolations, sécheresses, j'ai rajouté envie de dormir. Alors, j'aime bien ce qui concerne les inspirations. Je vous cite François de Sales. Nous appelons inspiration tous les attraits de la grâce, les bons mouvements, les reproches et remords de conscience, les lumières intérieures, et généralement toutes les bénédictions dont Dieu prévient notre cœur par un pur effet de sa bonté paternelle. C'est important, ces inspirations. On pourrait peut-être dire d'une autre manière l'émotion de l'Esprit-Saint aussi, tout ce qui nous vient à l'esprit. Vraiment, ne pas les laisser de côté, tout ce qui... Il y a beaucoup de choses qui nous viennent à l'esprit dans la journée. Donc d'être très à l'écoute. Et souvent, ça nous arrive de manière complètement imprévue. On est en train de descendre l'escalier. Toc, il y a... Quelquefois, c'est des choses toutes bêtes. C'est inspiré de téléphoner à telle personne. Ça peut être... Mais c'est important d'être attentif à toutes ces inspirations, à toutes ces... Où d'un seul coup, on prend conscience qu'on a une attitude qui n'était pas juste. Alors, du coup, plutôt que de passer tout de suite à autre chose, retenir un tout petit peu ces inspirations. Les laisser résonner, parce que ça ne reviendra peut-être pas. Si vous n'y faites pas attention, ben voilà. Il prend l'exemple du Cantique des Cantiques, je crois, où il dit, mais finalement, c'est pas à cet endroit-là, je crois. Mais bon, ben, il ne veut pas y prêter attention, tant pis, je m'en vais plus loin. Vous verrez, enfin, vous voyez déjà, mais il y a beaucoup de choses qui nous viennent à l'esprit. Et du coup, alors il y a certainement un discernement à faire. Et si ça concerne des choses importantes, il faut demander conseil aussi avant de s'engager dans une voie. Mais quelquefois, les projets les plus ambitieux, c'est venu en descendant l'escalier ou, je ne sais pas, dans des moments complètement imprévus. Alors ça, c'était une première chose parmi les inspirations. Maintenant, les consolations. Alors, peut-être que je l'ai déjà lu, cette citation, mais peut-être qu'il faut que je la lise une deuxième fois, au cas où vous ne l'auriez pas assimilée. Comment se comporter à l'égard des consolations sensibles? Donc, il écrit donc à la présidente Brûlard. Mais là, c'est le 11 février, alors je ne sais pas si c'est... Bon. Et les sentiments de l'oraison sont bons, mais il ne faut pourtant pas s'y complaire tellement que l'on ne s'emploie diligemment aux vertus et mortifications des passions. On sait bien de ressentir des choses, mais... Après, ce qui est important, c'est la manière dont tu vas vivre. lui en dit beaucoup là-dessus. Hein. Alors, il donne quelques avis. Alors, je vais prendre quelques avis qu'il donne. Alors, premier avis, la dévotion ne consiste pas en toutes ces douceurs, suavités et consolations sensibles. Non, la dévotion et cela ne sont pas une même chose. Car il y a beaucoup d'âmes qui ont ces consolations et qui néanmoins sont vicieuses. Ah oui, alors il prend l'exemple, j'aime bien cet exemple, c'était une lecture il y a peut-être 15 jours à peu près, c'était Saül qui poursuit David. Il va au fond de la grotte pour se soulager. David aurait pu le tuer, hein, et puis de fait il le laisse, et puis une fois que Saül est parti un peu plus loin, il lui dit « Ouais, mais je te veux pas de mal, tu vois bien, là je pouvais te tuer, c'était trop facile. » Et puis alors Saül qui commence à faire « Ah, oh, mon cher David, etc. » Il le nomma son enfant, il se mit à pleurer tout, à le louer, à bénir sa générosité, à prier Dieu pour lui, à présager sa future grandeur, à lui recommander le soin de sa propre famille. Mais en fait, il n'était pas vraiment converti, Saül, parce qu'il va continuer après à le poursuivre pour le tuer. Donc, il a eu une consolation, mais la consolation n'est pas allée très loin, quoi. Oui, il y en a qui sentent de grands attendrissements de cœur, qui leur font jeter des soupirs, verser des larmes, accompagnés de prières, d'actions de grâce si sensibles, qu'on les croirait volontiers saisis d'une grande dévotion. Mais quand on vient à l'épreuve, ben on voit que c'est du passé, ça, hein. Les bons mouvements qu'ils ont eus ne sont que des champignons spirituels, voilà, qui ne durent pas longtemps, hein, qui non seulement ne sont pas la vraie dévotion, mais bien souvent même sont de grandes ruses de l'ennemi par lesquelles, amusant les âmes à ces petites consolations, il les rend contentes et satisfaites d'elles-mêmes, et leur fait par là négliger la vraie et solide dévotion, qui consiste en une volonté constante, résolue, prompte et active, d'exécuter ce que l'on sait être agréable à Dieu. Donc, les consolations, bien sûr, on peut en avoir, et il le dit, ces douceurs tendres et affectueuses sont cependant quelquefois très utiles, mais là pour nous renforcer dans notre amour de Dieu, et pour accepter quelquefois des choses difficiles aussi. Mais alors, comment reconnaître les consolations sensibles qui sont bonnes et les autres ? Alors, c'est une règle générale filotée pour les affections et les passions de notre âme que nous devons les connaître par le fruit. Si donc ces douceurs et les consolations vous rendent plus humble, plus patient, plus aimable, plus charitable, plus indulgent pour le prochain, alors bon, c'est bon signe. Ça, vous pourrez le lire, c'est aussi dans les... C'est qu'une introduction, mais... Ça, c'est pour les consolations. Après, il y a tout ce qui concerne les sécheresses et les stérilités spirituelles. Alors, c'est intéressant, il nous dit, première chose, si vous êtes en état de sécheresse, ben, essayez de voir si vous avez une responsabilité. Parce que quelquefois, on peut en être responsable d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a le ver de la présomption. Ou alors, peut-être, on est un peu trop paresseux, on se laissait un peu aller. Ou alors on est trop dans le plaisir quelque part. Et au moment où Dieu nous appelle à renoncer à quelque chose, on ne veut pas renoncer. Il prend l'exemple du bébé bon, qui est très content de téter le sein, mais je ne sais plus comment il dit exactement, mais si on lui demande quelque chose, là il se met à pleurer. Non mais les sages... Hein. Oui, ça peut être un manque de loyauté dans les confessions. On ne dit pas exactement, on n'est pas tout à fait franc. Enfin, peu importe pour le prêtre, mais c'est vis-à-vis de Dieu, après, si on n'est pas clair. Ou ça rejoint un petit peu ce que je disais des aspirations. Les consolations, elles m'ont été données pour mieux aimer Dieu, pour peut-être me donner un peu plus d'ardeur, hein, c'est... Mais si j'en ai rien fait, bon Dieu peut-être me les retirera. Mais alors là aussi, c'est une caractéristique de Saint François de Sales. Il ne nous pousse pas au scrupule. Il nous dit, vous regardez, mais vous ne cassez pas la tête. Peut-être qu'il n'y a aucune de ces causes. Et à ce moment-là, s'il n'y a aucune de ces causes, il ne faut pas non plus vous tourmenter. Vous regardez, alors comme il le dit. Examinons donc notre conscience pour voir s'il n'y a pas en nous quelques-uns de ces défauts. Mais souvenons-nous, filoter, de faire cet examen sans inquiétude ni curiosité. Que si, après avoir fidèlement considéré nos dispositions, nous trouvons en nous-mêmes la cause du mal, il nous faut en remercier Dieu, car le mal est à moitié guéri. Si au contraire, vous ne voyez rien en particulier qui vous semble avoir causé cette sécheresse, ne vous amusez point à une plus curieuse recherche. Mais avec toute simplicité, faites ce que je vais vous dire. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire ? Humiliez-vous devant Dieu, invoquez Dieu, allez à votre confesseur. Ne pas désirer avec trop d'empressement d'être délivré de la sécheresse. Ça, ce n'est pas forcément spontané. Hein. Une forme d'indifférence dans le bon sens du mot, ben, Seigneur, fais comme tu veux. Un peu comme Job, le Seigneur m'a donné ses consolations, mais le Seigneur me les a ôtées, que son Saint-Nom soit béni. Et un autre conseil qu'il donne, justement, dans la sécheresse, allons toujours notre train. C'est-à-dire, voilà, on continue notre route, même si c'est la sécheresse. L'exemple, c'est Mère Teresa. Hein, pendant 40 ans, elle a été dans la sécheresse, mais elle a continué son job, si je puis dire. Hein, donc, Et il dit que paradoxalement, justement, c'est peut-être quelquefois dans la sécheresse qu'on multiplie d'autant plus les œuvres solides, avec beaucoup plus de désintéressement. Autre conseil concret pour la sécheresse dans la prière. Alors là aussi, les concrets, ça fait du bien. Quelquefois, ouvrez la porte aux paroles vocales. Plaignez-vous amoureusement à notre Seigneur. Confessez-lui votre indignité. Priez-le qu'il vous aide. Baisez son image. Une autre fois, prenez un livre. Lisez-le avec attention jusqu'à ce que votre esprit soit réveillé et dispo. Ou bien excitez votre cœur par quelque acte de dévotion extérieure, vous prosternant en terre, croisant les mains sur la poitrine, embrassant un crucifix. Tout cela s'entend si vous êtes seul et hors de tout regard. On le voit très concret. Hein. Vous n'êtes pas obligé, quand vous êtes au milieu de l'oratoire, mais vous pouvez garder une certaine... Ça, c'est pour la sécheresse, bon... Pour l'envie de dormir dans la prière, pendant la prière, il nous donne deux astuces. Alors, c'est dans une lettre qu'il donne ça. Déjà, il dit, Dieu ne se fâche pas que l'on dorme à l'oraison, pourvu que l'on fasse ce que l'on peut pour se réveiller. Donc, bon, vous connaissez tous l'épisode de la petite Thérèse qui dormait quelquefois. Bon, voilà, l'enfant a pleuré toute la nuit. Ben, que vous dormiez un peu pendant votre oraison, ça peut se comprendre, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il donne quand même deux petits conseils très concrets. Changer souvent de position au cours de l'oraison. Tenir tantôt les mains croisées sur l'estomac, tantôt jointes, tantôt tendues, tantôt debout, tantôt à genoux, sur un genou, sur l'autre. À mesure que les assouplis... Là, vous allez être très sportive à la fin de votre oraison. Et le second conseil, c'est justement ces courtes prières, ce qu'on appelle les oraisons jaculatoires, pour dire des petits mots à Jésus. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, hein, mais tant pis, ça me vient à l'esprit. Ici, il y a très peu de mariages qu'on célèbre ici, notre famille proche ou les gens d'Ourscan, ou troisième cas, des situations très particulières. Et un jour, il y a des gens qui viennent pour célébrer leur noce d'or. Bon, très bien, je parle avec eux. Tout ça. Et au bout d'un moment, je me dis, tiens, c'est bizarre, je ne suis pas sûr qu'ils sont mariés. Je ne sais pas comment c'est venu. Et en tout cas, je n'ai rien demandé. De fait, ils venaient pour la noce d'or, mais ils n'étaient pas mariés. Donc j'ai dit, ben, peut-être avant les noces d'or, on va célébrer le mariage. Alors bien sûr, c'était un cas quand même un peu particulier. Et alors, je me rappelle, donc on a fait ça à l'oratoire, là-haut, ils n'ont pas invité tout le monde, le banc et l'arrière-banc. Hein, mais... Et donc, à l'âge qu'ils avaient, qui était quand même un âge canonique, alors c'était très beau, lui disait des petits mots doux à sa nouvelle épouse. Mais bon, tout le monde entendait les mots doux, c'était trop mignon. Alors, mais vous pouvez dire des mots doux à Jésus pendant la prière. Mais il y a manière et manière de les dire si vous êtes en... Voilà, au milieu de l'oratoire, peut-être. Alors, voilà, c'est juste quelques éléments de la prière. Il y en aurait beaucoup d'autres hein, sur Saint François de Sales, mais peut-être on va faire un petit bouquet spirituel à la fin. Ce qui est très marquant, de toujours revenir au cœur. Hein. La prière, c'est d'abord un cœur à cœur avec Dieu. Il ne faut pas s'enfermer dans les méthodes. En même temps, les méthodes peuvent nous aider à certains moments. Comme on a besoin de béquilles, mais quand on peut se passer des béquilles, tant mieux. Mais voilà, donc, toujours garder l'essentiel, c'est d'aimer Dieu. Et on ne maîtrise pas la prière. C'est une relation avec Dieu et on ne met pas la main sur Dieu. Donc, c'est toujours quelque chose qui sera, en un sens, souvent un peu inconfortable parce que Dieu nous échappe. Mais c'est parce qu'il est Dieu, justement. Donc, c'est cette grâce. Et après, peut-être revenir à des conseils très pratiques de Saint François de Sales qui nous font du bien. Voilà. Vous avez des questions ?
Quand le matin, pour l'oraison, il conseille de méditer, sur quel texte on peut s'appuyer concrètement ?
Comme vous voulez. Alors, dans notre règle de vie, il nous est dit, à nous, une brève préparation de cette oraison est toujours profitable. Ça veut dire que, quelquefois, c'est mieux en arrivant à l'oraison, de savoir déjà sur quel texte on va, plutôt que de passer la moitié de l'oraison à chercher un texte, déjà, ce sera. Après, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. Ça peut être la parole de Dieu, ça peut être aussi. Alors, la parole de Dieu a la préséance, bien sûr, sur tous les livres de piété, etc. Mais ça peut aussi être un livre de piété, si ça vous fait du bien à ce moment-là. Ça peut être simplement, vous reprenez simplement une prière d'un saint qui vous parle, et vous redites paisiblement cette prière. Mais toujours, la première chose quand même que j'ai incité beaucoup, parce que c'est d'abord de se mettre en présence de Dieu. À un moment, il dit, ce texte nous parle pas. Si vraiment il nous parle pas, on prend un autre texte et puis on se casse pas la tête. Il faut pas se faire des nœuds dans la tête. Hein, on est dans une relation avec Dieu, donc c'est pas. Alors, mais si on peut préparer un petit peu, c'est mieux, mais bon, c'est au moins savoir ce qu'on va l'avoir sous la main. Et que, voilà.
L'idée, quand même, de réussir à se détacher de ce texte et de ne pas passer son oraison à lire, en fait.
Oui, l'idée, c'est de ne pas passer son oraison à lire. Mais certains jours, peut-être, c'est d'expérience. Quelquefois, les autres jours, c'est le matin, donc je ne suis plus dispo le matin. Mais le dimanche, on l'a fait le soir, ensemble. Et alors, quand on a une journée très pleine, que je me suis levé de très bonne heure, là, il vaut mieux que je lise, quasiment. Sinon, je dors. Voilà. Lire ou dormir, il faut choisir. Voilà. Mais l'idéal, effectivement, c'est de ne pas lire tout le temps. On n'est pas là pour lire, on est là pour rencontrer Dieu.
Mais je pensais que quand vous parlez, enfin, quand Saint François de Sales parle de Saint Purifié de la Grande Oraison, je me demandais quand était apparu le chapelet, parce que la Sainte-Vierge est présente ici.
Le chapelet existait déjà avant Saint François de Sales, et il le disait. Je ne suis pas un grand connaisseur de Saint François de Sales, bien sûr, il n'était pas du tout contre le chapelet. Seulement, à un moment, il parle de toutes les dévotions, entre guillemets, sans voir un mot péjoratif dans ce mot-là. Il peut y avoir des tas de dévotions qui nous font du bien, tant mieux, ou la couronne de la miséricorde, ou le voilà. Le but, c'est toujours d'être en communion avec Dieu. Après, si le chapelet vous aide à être en communion avec Dieu et en cœur à cœur avec Dieu, mais justement, vous savez que dans le chapelet, il y a trois éléments. Il y a d'abord un mystère. Alors, il y a une répétition. On médite des mystères de la vie de Jésus. Après, on prie pour une intention particulière. Et puis, entre les deux, c'est le fruit du mystère, c'est souvent une vertu. Ça rejoint très fort aussi Saint François de Sales. Et de cette contemplation du mystère, on désire vivre une vertu. Donc, quelque part, c'est assez proche de ce qu'il nous dit sous un... avec une présentation différente, hein, mais peut-être dans le chapelet, on est un petit peu plus contraint par la récitation des « Je vous salue Marie » et tout ça, mais Peut-être ce jour où j'ai envie de m'endormir, je peux, c'est aussi bien que je prenne mon chapelet et puis peut-être que je m'endormirai encore plus vite. Mais bon.
Moi, j'essaie de prioriser et je me rends compte que dans ma journée, je pense soit de caler mon chapelet, soit de caler mon oraison. Je vais choisir entre les deux pour prendre le livre.
Ben, vous voyez, selon les jours, c'est bien de varier les plaisirs, je pense.
Un petit peu le résumé de l'oraison.
L'important, c'est que ça vous aide. Après, mais je pense que varier les plaisirs, c'est bien aussi d'avoir des moments où, quelquefois, on a un peu de temps devant soi. Par exemple, entre prier une demi-heure et prier une heure, c'est pas la même chose, je trouve. Prier une heure, c'est plus dépouillant quelque part, mais ça fait aussi du bien profondément. Donc, il y a différentes. Donc, bon, il ne faut pas absolutiser l'une ou l'autre forme, mais je pense que varier les plaisirs, ça nous fait du bien, ça nous renouvelle aussi.
Est-ce qu'au niveau de la préparation, il faut qu'on fixe ce temps de prière?
Alors, bien sûr que si vous avez l'habitude le matin à telle heure de faire l'oraison, au bout d'un moment, c'est plus facile. Si à chaque fois vous vous apercevez à 11h du soir que vous n'avez pas encore fait oraison, ben, ça sera compliqué. Mais d'ailleurs, dans les équipes de Notre-Dame, pour la prière en couple, la difficulté majeure, souvent, c'est de trouver le moment pour prier ensemble. Et une fois que, d'expérience en tout cas, pas la mienne, mais de conseiller spirituel, l'expérience, c'est quand les gens ont vraiment trouvé le moment qui leur convient à tous les deux, il faut se synchroniser. Mais à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Mais si chaque jour, on doit redécider d'un moment, tout ça, on ne le fait pas. Enfin, on le fait mal. Pour la durée. Effectivement, l'idéal, c'est de prévoir une durée et de s'y tenir. C'est de prévoir une durée et de s'y tenir. Vous pouvez rallonger au besoin. Mais... mais avant même la durée, c'est d'avoir un moment. Essayer de trouver le moment. Ce qui implique une certaine discipline de vie derrière. Si vous vous couchez à point d'heure, bon, quand on a des bébés, c'est plus compliqué, hein, mais on fait comme on peut. Mais si on se couche à point d'heure, ben, il ne faut pas rêver d'avoir vraiment une vie d'oraison, etc. Il faut aussi avoir une discipline de vie. Ça va de pair. Enfin, pour moi. Discipline de vie, pas oui, en tout cas, non, mais il faut, c'est un équilibre de vie quand même. Les bienfaits concrets. Alors, les bienfaits concrets, c'est par surcroît. Par surcroît, il y a des bienfaits, mais les bienfaits ne sont pas au bout de notre temps d'oraison. Automatiquement, de manière automatique, et c'est. Encore une fois, il y a une grande gratuité dans l'oraison, mais par surcroît, je peux vous dire qu'il y a des bienfaits de paix intérieure, des bienfaits d'être renouvelé dans notre amour de Dieu, des bienfaits, justement, dans notre vie aussi, on prend conscience de l'amour de Dieu, du coup, ça nous donne ça nous aide dans notre vie chrétienne, ça nourrit notre vie chrétienne, vraiment. Mais il ne faudrait pas les voir comme des bienfaits automatiques, parce que certains jours, on fait oraison, on ne ressent rien, on repart. On a l'impression d'avoir perdu notre temps, enfin, humainement parlant. Dans la foi, on sait que ce n'est pas du temps perdu, parce que c'est du temps donné à Dieu. Mais on n'a pas l'impression d'avoir... Et du coup, il faut se méfier de cette impression d'inutilité, quelquefois. Mais dans la foi, on sait que Dieu a fait quelque chose qui est un peu mystérieux. Alors, je fais un petit flash publicitaire, ça n'a rien à voir avec l'oraison, mais on a un groupe de prière à Compiègne, le groupe Pape François, où c'est plus la louange. J'y vais tous les mardis, soir. Alors, c'est vrai que ça, c'est assez prenant, finalement, une soirée par semaine, voilà. Mais en même temps, de manière assez mystérieuse, je suis convaincu que Dieu a donné des grâces à la communauté par ce temps gratuit que je lui ai donné et les autres frères qui viennent avec moi. Mais ça ne se mesure pas directement. Mais je sais que Dieu aime qu'on lui donne du temps gratuit, pas calculé, vraiment. Après, ça peut être sous d'autres formes. On n'est pas forcément à l'aise avec ce type de prière, ça peu importe. Mais en tout cas, du temps gratuit à Dieu. Et l'oraison, ça reste un temps gratuit par excellence. Mais par surcroît, Dieu nous donne quelque chose. Mais par surcroît. Ce n'est pas au bout de nos efforts. C'est un don de Dieu, un don gratuit de Dieu.
C'est d'être déjà en relation, enfin voilà, d'être en relation avec le Seigneur, mais pour, j'ai envie de dire, on vit déjà cette vie éternelle, mais je veux dire, pour la vie pleinement après,
oui,
je veux dire,
c'est tout à fait, oui.
Ce temps-là, on se prépare.
Tout à fait. Allez-y.
Quel conseil vous donneriez à Hélène qui a beaucoup de trauma, qui a enfin une envie de.
Oh là là! Alors, une chose qui nous aide pour faire oraison, c'est d'être à plusieurs. Quand on est en groupe, c'est quand même plus facile. Nous, la cloche sonne, etc. Alors, c'est pas. Mais quelquefois, alors après, ça dépend très concrètement du lieu où on se trouve. Quelquefois, je pense, il y a une communauté religieuse pas très loin, de passer un petit temps. Quand on est seul, c'est beaucoup plus ardu que nous. Nous, c'est facile pour nous. Alors, ça, c'est un premier conseil. Un deuxième. Alors, après, il y a combat pour prendre le temps d'oraison, où il y a des combats qui ne concernent pas directement l'oraison en tant que telle. Alors là, pour ces autres combats, peut-être on peut demander un peu d'accompagnement, être aidé ou... Ça nous ramène toujours quand même à un groupe quelque part. Je pense que tout seul, c'est plus difficile. Mais je n'ai pas de solution miracle. Alors, il y avait quelqu'un d'autre. Oui.
Je me demandais si l'oraison, c'était une grâce à demander, parce que moi, j'entends toujours que quelqu'un est en maison, etc. Mais je pense que personnellement, quand je tournais, j'avais ça, j'ai l'impression qu'il y a un moment donné,
Oui. Bon, l'oraison aura toujours un côté austère les trois quarts du temps, hein, ça c'est vrai. En même temps, le premier élément qui est important quand même, c'est l'introduction à l'oraison est vraiment importante. D'abord, je prends conscience dans la foi que Dieu est là. On ne peut pas court-circuiter ce premier maillon. Quand on a sauté le premier maillon, ben après on est mal, en quelque sorte. Bon. J'exagère un peu peut-être, mais c'est le premier pas de prendre conscience dans la foi que Dieu est présent. Et peut-être une oraison, ça peut être que ça. Et d'invoquer son aide, parce qu'effectivement, c'est une grâce à demander, d'invoquer son aide. On est dans les deux premières choses de l'oraison. Faites ça tout simplement. Et vous prenez votre évangile, vous lisez, mais pas dans la hâte. Et quand il y a des choses qui vous parlent, qui résonnent en vous, ben vous vous arrêtez. Vous butinez la fleur, et puis une fois que ça ne vous parle plus, vous lisez un peu plus loin, et vous ne vous faites pas des nœuds dans le cerveau. Mais vous savez que Dieu est là, que Jésus est présent. Peut-être faire tout simplement comme ça, pour commencer.
Moi, je dirais qu'en ce cas-là, j'ai un peu que je sais qu'il est là intellectuellement, et ça fait un peu des
Ah ben, c'est pas la même chose qu'il soit là intellectuellement ou par la foi. Je sais dans la foi, c'est pas parce que c'est dans la foi que c'est intellectuel. La foi, c'est vraiment je crois que Dieu est présent. C'est une vertu théologale, hein, mais c'est pas. Alors je le sais parce que Dieu l'a dit dans sa parole, et je crois en sa parole. Hein. La foi est la réponse à Dieu qui se révèle, mais ce n'est pas intellectuel. Alors, c'est vrai que ça ne touche pas nos sentiments. Nous, surtout actuellement, dans notre société, on aime bien ce qui vient toucher nos sentiments, ce qui nous suscite des émotions, etc. Mais l'oraison, ce n'est pas toujours ce qui suscite beaucoup d'émotions en nous. Et c'est un côté un peu dépouillant, c'est clair, hein, l'oraison. Mais à certains moments... Oui, on vit quand même des choses qui nous relancent. Ça réchauffe notre cœur, un peu comme les disciples d'Emmaüs. Là, il passait tout en revue, Jésus passait en revue tous les passages de l'Ancien Testament qui parlaient de lui. Et à un certain moment, petit à petit, leur cœur se réchauffait. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont reconnu sa présence, quelque part. Mais au début, ces textes, ça ne leur disait pas plus que ça, quoi. Demander d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il... J'ai pas de recette magique, hein. Mais vous lui dites, j'ai besoin et manifeste-toi. Vous lui dites avec vos mots, vous prenez les paroles de psaume. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Ça, c'est des paroles de psaume qu'on veut dire avec respect, bien sûr, mais voilà.
Il n'a pas parlé de conclusion.
Ah oui, alors là, François de Sales parle de deux éléments pour la conclusion. Il parle, donc il y a une première conclusion, on pourrait dire, c'est l'action de grâce, l'offrande et la supplication, ça c'est la première partie. Et après, c'est le bouquet spirituel, ça c'est la conclusion de l'oraison. Il ne dit pas forcément de dire le Notre Père ou une prière vocale, ce n'est pas un péché de le dire, il n'y a pas de souci. Mais non, dans la conclusion, c'était un peu ces deux éléments, c'est on rassemble un petit peu ce qu'on... Donc on s'offre, on supplie et puis on... Voilà.